feuille à la porte. Juste lever la main et on va. Il y a deux personnes ici. Donc, si on peut avoir quelqu'un distribuer les petites feuilles, on va continuer. Vous aimez la parole de Dieu?
Amen.
Amen. Donc, je vous invite ce matin, si vous avez amené une Bible, à prendre votre Bible entre vos mains. Si vous n'avez pas de Bible ce matin, il y a la feuille dont je vous ai parlé tantôt. Et là-dessus, presque tous les versets qu'on va lire sont écrits. Donc, on va prendre ces versets entre nos mains et on va faire une belle déclaration de la foi. Parce que la parole de Dieu dit que ce qu'on croit de notre cœur, qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche, s'accomplit. Il y a vraiment une puissance, c'est un principe spirituel. Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, il faut croire, il faut parler. Donc, aujourd'hui, on va recevoir une semence incorruptible de la parole de Dieu. Et juste avant de recevoir, on ne veut pas juste écouter un sermon. On ne veut pas juste passer une autre 30, 45 minutes, une heure à l'église. On veut être transformé. Amen. Et la parole a la puissance de nous transformer. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai transformé et changé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est bon, ça tombe bien dans un sens parce que comme ils ont déjà souligné, aujourd'hui ça marque notre 10e anniversaire comme pasteur de l'Église Fêter la Vie Comblée. Et on est reconnaissant pour les derniers 10 ans. On sait que le Seigneur a déjà fait une belle œuvre. Et c'est merveilleux de voir toute la transformation dans cette Église depuis 10 ans. La transformation des vies, la transformation sur tous les plans, même sur le plan physique. Quand nous sommes arrivés à Drummondville, l'Église avait un local sur le boulevard Saint-Joseph et je pense on est arrivé la fin octobre, le 1er janvier, ça a passé par un feu et donc il n'y avait rien. On a commencé vraiment dans le physique avec rien. On louait les places, on n'avait même pas un micro, rien. Donc si on regarde en 10 ans, toutes les étapes, on a passé par le centre communautaire Saint-Pierre, on a resté 2 ans et demi là-bas, on a resté à peu près 2 ans et demi à la Poudrière, et puis on a loué le local sur le boulevard Lemire, et le Seigneur a finalement ouvert une porte ici, dans cette belle bâtisse, qui n'était pas vraiment une belle bâtisse au début, qui est beaucoup plus agréable à voir actuellement. Mais ça, c'est juste sur le plan physique. On voit une croissance, on voit un développement, on voit une équipe qui est en train de s'installer, on voit les personnes qui sont en train de devenir les vrais disciples de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment, vraiment encourageant, n'est-ce pas? On voit les membres de l'Église comme Alice, qui est aujourd'hui même en Outre-mer, en train de prêcher l'Évangile. Et ça, c'est juste le début. Et dans 10 ans, on a vu des belles choses, mais je suis convaincu que le meilleur est à venir. Et qu'en réalité, on n'a rien vu à date. Qu'on a eu un petit avant-goût de qu'est-ce que Dieu veut faire. Aujourd'hui, quand je regarde l'Église, je vois une semence. Je vois une semence qui a un potentiel extraordinaire de grandir, de croître et de porter davantage du fruit. Et c'est essentiel qu'on comprenne que nous avons un but, que nous avons une destinée, que nous avons une raison d'être ici sur la terre. C'est essentiel que vous, en tant qu'individu, que vous sachiez que votre vie personnelle est destinée à porter du fruit et à toucher les vies. Pas juste ici à Drummondville. La vision de cette église, c'est de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie est au-delà. Amen? Et je sais, c'est déjà commencé à peine, mais ça va continuer. Et si la vision de cette église, c'est de faire un impact sur cette ville, sur la province, sur la francophonie et au-delà, Sachez que vous êtes, parce que vous faites partie de cette Église, que votre vie est destinée à faire un impact sur cette ville, sur la province de Québec, sur la francophonie et au-delà. Chacun de vous, vous êtes destiné à cela. Pas forcément pour prendre l'avion pour aller en Outre-mer, peut-être oui. Mais si vous faites votre part, si vous jouez le rôle que le Seigneur vous a confié, si vous êtes capable de saisir votre destinée individuellement, ensuite, globalement, l'Église va être capable de saisir sa destinée et on va aller de l'avant. N'est-ce pas bon? Alléluia. Donc aujourd'hui, on va regarder plusieurs choses que l'apôtre Paul a dit. En fait, on va faire une petite correction. Quelque chose que le Saint-Esprit a dit à travers l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Moi, je sais que le Seigneur Jésus est vivant et je crois qu'il revient bientôt. Mais avant que Jésus revienne, il faut que l'Église accomplisse son œuvre ici sur la terre. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle qui comprend les églises locales ici sur la terre. Il y a une œuvre à faire. En fait, la parole de Dieu est claire. Jacques, on voit par exemple que le laboureur, il est patient, il attend le précieux fruit de la terre. On sait qu'en 2 Pierre chapitre 3, que Dieu, il use de patience envers nous, mais que tous viennent à leur repentance. On sait que Jésus a dit que cet évangile sera prêché à toutes les nations et ensuite viendra la fin. Donc on sait que si Jésus n'est pas encore revenu pour enlever l'Église, c'est parce qu'il y a encore une œuvre à faire ici sur la terre. Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas? Il y a encore des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Mais l'apôtre Paul, lui, il a une drôle d'histoire dans un sens, parce que là, on voit un homme qui, avant d'être chrétien, ravageait l'Église, persécutait l'Église, il faisait toutes sortes de mal aux chrétiens, il mettait les gens en prison, il tuait les chrétiens. Étienne, qui était le premier martyr de la Bible, c'était Saul de Tarse qui a approuvé sa mort. Et tout le monde a mis leurs vêtements à ses pieds quand ils ont lapidé. Et là, on voit un homme qui était plein de passion, qui était vraiment un homme qui avait un but dans la vie. Son but, c'était de faire plaisir à Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu comme il faut. On voit un homme qui était religieux, qui ravageait l'Église, et que dans l'ignorance totale, il poursuivait sa vie. Une journée après l'autre, il faisait les choses qu'il pensait. Il pensait que c'était la bonne chose, mais en réalité, ce n'était pas la bonne chose. Combien de personnes aujourd'hui à Drummondville sont dans le même bateau? Ils vont au travail à tous les jours et ils vont travailler de 7 à 7 ou de 9 à 5 ou dépendant quel shift, ils vont travailler des fois toute la nuit, mais ils vont une journée après l'autre, ils vont aller poursuivre leur but dans le naturel. Ils ont fixé souvent les objectifs et ils pensent vraiment être sur le bon track, mais la plupart des gens dans cette ville, moi je crois que vous êtes d'accord, s'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils sont hors le track. Vous êtes d'accord? Donc on voit que Saul de Tarse, il était hors le track. Il faisait toutes sortes de choses avec passion, avec énergie, avec dévouement, mais il faisait toutes les mauvaises choses. Jusqu'au point de tuer les chrétiens, de mettre les chrétiens en prison. Mais savez-vous que tout au long de ces années, pendant qu'il poursuivait les buts sans fin, on pourrait dire, les desseins qui étaient inutiles, pendant toute cette partie de sa vie, il était quand même appelé à être apôtre. Et que même avant que Dieu a tissé Saul de Tarse dans le ventre de sa maman, avant qu'il fût créé, Dieu savait, Dieu le connaissait et Dieu l'a appelé à être apôtre aux nations. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de l'apôtre Paul, on parle de vous et on parle de nous. On parle de vous individuellement et on parle de l'Église, c'était la vie comblée. Et sachez qu'avant que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, que Dieu avait une destinée pour vous. Dieu avait un plan pour votre vie. Et que vous, aujourd'hui, même si vous êtes hors le track, même si vous êtes en train de poursuivre la vanité dans votre vie, même si vous pensez être en train de faire des bonnes choses, mais en réalité, vous êtes éloigné du plan de Dieu, vous êtes quand même appelé et destiné à faire des grandes choses pour le Seigneur. Tout le monde dit, je suis destiné à faire des grandes choses. Oh, mais pas moi, je ne pense pas que Dieu veut que je fasse des grandes choses, hein? Hein, je ne suis pas comme Paul, je ne suis pas comme Pierre, je ne suis pas comme Moïse. Moïse, lui, c'est un gars qui a fait des grandes choses. Hein? La mer rouge séparée, toutes sortes de miracles devant Pharaon. On voit la puissance de Dieu, les prodiges. Wow, ça c'est un homme de Dieu, il a fait des grandes choses. On parle souvent de Moïse, n'est-ce pas? C'est moins souvent qu'on va parler de maman Moïse. Ou de son père. Mais savez-vous qu'eux autres aussi, ils étaient appelés et destinés à faire de grandes choses? Qu'est-ce qu'ils étaient destinés à faire? Faire un bon panier. Ça fait partie de leur destinée. Hein? Faire un bon panier qui n'allait pas couler. Et au moment donné, quand ils ont mis leur bébé précieux dans ce panier, ça flottait comme il faut, n'est-ce pas? Et on pense souvent, mais Moïse a fait des grandes choses. Mais son père, sa mère, qu'est-ce qu'ils ont fait d'important? Ils ont tricoté un bon panier. Mais vous, des fois, est-ce que vous avez la tentation de penser ou de dire, mais moi, je ne fais pas grandes choses. Ma vie, ce n'est pas si important que ça. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Si je le fais, tant mieux. Si je ne le fais pas, tant pis. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Il faut que vous sachiez que ce que vous faites va changer grand-chose. On est tous reliés les uns aux autres, n'est-ce pas? On est reliés les uns aux autres. J'ai eu un rappel de cela juste il y a 2 jours. On est allé voir des grands amis de longue date, des personnes très chères à nous. Et on est allé voir dans l'état de Kentucky des personnes, c'est pas pour manger le poulet frit de Kentucky non plus. On est allé voir un homme qui, en fait, quand j'avais 9 ans, je l'ai rencontré. C'est lui qui a pris du temps avec moi et mon frère quand mon père était parti. C'est lui qui a amené moi et mon frère et ma mère à l'église. C'est lui qui a fait l'école biblique à Raymond. Et par la suite, j'ai suivi, on pourrait dire, dans ses traces. Hein? Mais c'était une personne qui avait beaucoup d'influence dans ma vie. Et quand je l'ai vu, ça, je ne le vois pas souvent, ça fait la première fois dans 3 ou 4 ans que je l'ai vu, mais je suis comme, merci Seigneur que tu l'as amené dans ma vie. Il a touché ma vie. Amen. Et en réalité, je suis ici au Québec aujourd'hui en train de vous parler parce que lui, il a touché ma vie. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est de fun, c'est que on l'a rencontré, mais il y avait un autre couple qui sont très proches à eux. Et en fait, on restait chez eux. Ils sont maintenant dans la même ville. Et lui, quand il est sorti de la maison, cet autre couple, je l'ai vu et je pensais, mais vous savez, c'est lui qui a amené Gary, mon autre ami, au Seigneur. Donc là, j'avais comme 2 autres générations spirituelles devant moi. Donc j'ai vu, waouh, comment c'est merveilleux. Et voici un homme qui travaillait dans le monde, on pourrait dire, dans un travail séculier. C'était une personne qui n'était pas un pasteur, pas un prédicateur, mais c'est quelqu'un qui allait au travail à tous les jours. Mais quand il allait au travail pour faire les choses naturelles, il avait dans ses pensées l'idée que je travaille pas juste pour gagner mon pain, mais je travaille pour gagner les hommes. Et quand il est allé au travail, il commençait à témoigner à mon ami de longue date. Il commençait à parler de Jésus. Et laisse-moi vous dire que le gars, il avait besoin de Jésus. C'était le mouton noir de sa famille. Et c'est vraiment drôle, toute cette histoire, comment le Seigneur nous lie ensemble. Longue histoire. Mais moi, j'ai connu la mère de ce gars avant que... C'est parce que sa mère, c'était la meilleure amie de ma grand-mère. C'est tout bizarre, hein? Mais quand j'ai vu ça l'autre jour, il y a 3 jours, j'ai vu Gary qui a eu une telle influence dans ma vie. Et puis j'ai vu Bob sortir de sa maison et j'ai dit, c'est grâce à lui que Gary est venu au Seigneur. Et Gary a une influence sur moi. Et c'est grâce à lui que j'ai fait l'école biblique. Et si je n'aurais pas fait l'école biblique, je sais, j'ai eu les contacts et j'ai eu des rendez-vous divins. Et c'est pourquoi le Seigneur a pu me parler même quand, en 1989, en train de balayer le tapis dans ma maison à Saint-Louis, le Seigneur a dit, je veux que tu commences à prier pour le Québec et le peuple québécois, mais je ne connaissais personne ici. Mais c'était à travers mes connaissances de l'école biblique que j'ai pu entrer en contact avec quelqu'un de Drummondville. Donc, toutes ces choses... Ce monsieur est allé au travail un jour, juste pour travailler, on pourrait dire, mais ce n'était pas juste pour travailler, c'était pour faire la volonté de Dieu. Et je pense qu'il faut que chacun de nous, on sache que chaque jour de notre vie est une journée importante. Et qu'on peut toucher un cœur, on peut changer une vie, et on ne sait jamais jusqu'à où ça peut aller. On entend parler des gens comme Billy Graham, est-ce que vous êtes content pour le ministère que Billy Graham a fait pendant des années. Est-ce que vous connaissez le nom de la personne qui l'a amené au Seigneur? Moi non plus. Moi, je l'ai connu avant, mais j'ai oublié. Mais savez-vous que cette personne est aussi importante et toutes reviennent à Jésus, n'est-ce pas? Mais ici, on voit l'apôtre Paul. Avant de devenir l'apôtre Paul, il est Saul de Tarse, en train de poursuivre la vanité, en train de faire le contraire de ce qu'il est destiné à faire. Et tout au long de cette histoire, il est appelé à être un apôtre pour les nations. Jusqu'au jour où sur la route de Damas, la lumière est descendue du ciel et Jésus-Christ a saisi Saul de Tarse. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que Saul a répondu? Qui es-tu, Seigneur? Deux choses qu'il a demandé. Qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que je fasse? Et ça, c'est les deux questions qu'on a besoin de poser aussi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de te connaître et j'ai besoin de connaître ce que tu veux que je fasse sur la terre. Ma destinée, c'est d'abord, premièrement, de te connaître et ensuite de te faire connaître aux autres. N'est-ce pas? Tout le monde dit, je suis destiné à connaître Jésus. Et à le faire connaître aux autres. Amen. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit en Philippiens chapitre 3, regardons verset 9. Mon désir, et je vais lire cela, je pense que c'est dans la parole du semeur, la version de la parole du semeur. Mais mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurai moi-même acquise, en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ. Qui es-tu, Seigneur? Je veux te connaître. Et c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Tout le monde dit, saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Est-ce que vous êtes content que Jésus-Christ a pris le pain et le temps de saisir Saul de Tarse? On est en train de lire la Bible ce matin. Et une bonne portion des lettres, des épîtres du Nouveau Testament ont été écrits par Paul, l'apôtre, autrefois connu comme Saul de Tarse. Combien de personnes est-ce que vous êtes destinés à toucher? Combien de choses est-ce que vous êtes destinés à faire? Saul avait besoin de saisir sa destinée parce qu'il savait que le Seigneur Jésus a pris le temps de le saisir. Combien de vous, vous pouvez dire que Jésus a saisi votre cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être nés de nouveau aujourd'hui? Jésus a saisi votre vie, il vous a arraché de la boue, il vous a mis sur le fondement, sur le roc, il vous a rétabli comme la justice de Dieu. Combien je suis reconnaissant pour le changement que j'ai eu dans ma vie. Jésus, il m'a saisi. Mais maintenant, c'est à moi, c'est à mon tour maintenant de saisir ma destinée. Il faut que je dise comme Saul a dit, « Qui es-tu, Seigneur, et qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse? » Tout le monde dit, « Je veux te connaître, Seigneur, et je veux faire ta volonté. » Mais regardons bien. Ici, on voit plusieurs principes, quatre principes, en fait, dans ces versets qui sont tellement importants. Il dit, « Afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts, non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Soulignez cette phrase, l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel. Savez-vous que Dieu vous a adressé un appel du haut du ciel? Saul, sur la route de Damas, a entendu une voix qui venait d'où? Du ciel. Et dans les semaines à venir, je crois qu'on va parler un peu plus du ciel. J'ai des choses qui roulent dans mon esprit concernant le royaume de Dieu, concernant le ciel et concernant la volonté du ciel ici sur la terre. Et que faire pour vivre le ciel dans un sens, la volonté du ciel sur la terre? C'est ça que Jésus a dit, n'est-ce pas? Qu'il faut prier que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Mais ici, on voit que Saul a eu une rencontre avec Jésus qui maintenant est assis à la droite du Père au ciel et qu'il y avait un appel qui lui a été adressé. Mais sachez que Dieu ne fait pas, il n'a pas des favoris. Il ne fait exception de personne. Et que si Dieu a adressé un appel à l'apôtre Paul, des fois on fait l'erreur de dire, mais vous savez, Paul était appelé de Dieu. On dit à propos des personnes qui sont dans le ministère à temps plein, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, lui, il a un appel sur sa vie. Mais est-ce que vous savez que vous avez un appel sur votre vie aussi? Que vous avez une vocation céleste. Il y a quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Et il faut être à l'écoute pour pouvoir entendre cet appel qui va venir du ciel, pour recevoir cet appel, pour saisir cet appel. Parce qu'il y a un prix qui est attaché à cet appel. Si on accomplit notre appel, on va profiter du prix. Et c'est clair, il y a plein de versets dans la parole qui parlent de cela, qu'un jour on va être face à face avec Jésus, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour être récompensés pour ce que nous avons fait étant dans notre corps, n'est-ce pas? Donc, un jour, je vais arriver devant Jésus. Et si j'ai accompli mon appel, si j'ai fait ce qu'il veut, ce qu'il voulait que je fasse, je vais recevoir le prix. Amen? Et Paul avait cela dans sa... Il avait vraiment, vraiment une motivation inlassable pour atteindre son but, pour finir le plan de Dieu pour sa vie, et même on voit qu'à la fin de sa vie, il avait la pleine conviction qu'il avait accompli. Il a dit, « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Il est réservé pour moi maintenant une couronne. » Il savait. Wow! Les choses ont changé depuis mon départ, hein? Je n'étais pas là avant. Mais ça fait du bien de changer des fois, hein? J'aime les changements. Où est-ce que j'étais avant de failler tomber? Oui, il finissait la course. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Et savez-vous que c'est un combat des fois? Des fois, ce n'est pas toujours évident, c'est un combat de la foi. On a parlé de la foi depuis des semaines, n'est-ce pas? Et ça prend la foi pour achever la course. Mais sachez que Paul n'était pas orgueilleux en disant, j'ai achevé la course. Et je sais qu'il y a un prix réservé pour moi. Ce n'était pas l'orgueil. C'était un cœur convaincu. Et nous aussi, on peut avoir le même genre de cœur convaincu. Parce qu'il a dit, ce n'est pas juste réservé pour moi, mais pour tous ceux qui aiment son avènement. Est-ce que vous aimez l'idée que Jésus va revenir bientôt? si vous saisissez votre destinée, si vous saisissez le prix qui est attaché à votre appel céleste, votre vocation céleste, vous allez pouvoir dire avec Paul, j'ai achevé la course, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire, et je sais qu'il a réservé pour moi une couronne. Et qu'est-ce qu'on va faire avec nos couronnes? Rendre au ciel. On va les polir, on va les mettre dans un cadre ou quelque chose, et on va se vanter, ma couronne est plus grosse que la vôtre. Non, la Bible nous dit exactement qu'est-ce qu'on va faire avec nos couronnes. Rendre au ciel, autour du trône de Dieu, on va tous prendre nos couronnes, on va les jeter, on va les lancer aux pieds de Jésus. Pourquoi? Parce que toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui appartient. Parce que si je fais quelque chose de bon dans cette vie, c'est grâce à lui. Si je fais quelque chose pour toucher la vie d'une autre personne, c'est grâce à lui. Alléluia. On va faire une répétition. Prochaine fois que vous êtes tenté de devenir orgueilleux, chapeau. Non. Alléluia. Donc, quatre choses qu'on voit dans ces versets. Premièrement, fixez les yeux sur la rémunération. Sachez que Dieu est un Dieu qui est bon, qui nous aime et qui veut nous rémunérer. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car ceux qui s'approchent de Dieu, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est un bon papa qui aime donner et donner et donner et rémunérer abondamment. Et sachez qu'un jour, il y aura un prix. Je pense qu'on a besoin de fixer nos yeux sur ce prix. Je pense qu'il faut des fois fixer dans notre intelligence cette image de la journée où on va pouvoir présenter notre couronne à Jésus. Meilleure chose qu'on peut faire pour remercier Dieu. Seigneur, voici ma couronne. J'ai fait ce que tu as voulu que je fasse. Et pour moi, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on va voir davantage des âmes au ciel. N'est-ce pas? Donc, fixez les yeux sur la rémunération. Ça me fait penser à Hébreux 11, 26, qui parle des héros de la foi. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On voit qu'il y avait des personnes dans l'Ancien Testament qui ont pris une décision de se priver de certaines choses, même des fois, au lieu de chercher leurs propres intérêts, de chercher la volonté de Dieu, de chercher le plan de Dieu pour leur vie, et ils ont fixé leur rémunération là-dessus. Et on va parler de cela peut-être dans les jours à venir. Même Abraham, il cherchait quelque chose en particulier, il cherchait une ville, une cité céleste. Je suis là pour vous dire aujourd'hui qu'il y a une cité céleste, qui n'est pas loin, mais c'est une véritable place. Une véritable ville avec des vraies rues. Dieu habite là, nous allons habiter là avec lui. Amen. Et les héros de la foi, ils ont cherché cette ville. Nous allons se rendre dans cette ville dans très peu de temps. Amen. Mais fixons les yeux sur la rémunération. Qu'est-ce que Paul a dit? À part de ça, il a dit, Non, mon frère, pour moi, je n'estime pas le prix, mais je fais une seule chose. N'est-ce pas intéressant? Si quelqu'un aurait pu se vanter un petit peu, ça serait peut-être l'apôtre Paul. Il a fait pas mal pour le Seigneur, vous êtes d'accord? Mais même vers la fin de sa vie, au lieu de dire, regarde-moi, qu'est-ce que j'ai accompli? Non, il a dit, j'ai pas encore saisi le prix. Je n'ai pas terminé. J'ai encore des choses à faire pour Dieu. Et je veux être comme ça jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Je veux toujours savoir qu'il y a encore plus à faire. Et dès qu'il n'y a plus rien à faire, je vais aller au ciel. Amen? Mais pour faire cela, il faut fixer les yeux sur la rémunération et il faut oublier ce qui est en arrière. Savez-vous qu'il est impossible, ou au moins très difficile, d'aller de l'avant quand on regarde en arrière? On prend l'exemple d'une course naturelle, quelqu'un qui fait une course. Ils disent que la pire chose que vous pouvez faire, c'est de regarder en arrière. Pour checker, est-ce que les gens sont en train de m'attraper? Oubliez ça. S'ils vous attrapent, tant pis. regardaient devant et couraient. Et aujourd'hui, je vous dis que si vous êtes en train de regarder en arrière et vous êtes fixé sur ce qui s'est passé hier, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, que vous n'allez jamais arriver à votre destinée, vous ne saisirez jamais votre but, vous n'allez jamais atteindre votre but, vous n'allez jamais saisir votre prix. Amen. Oubliez ce qui est en arrière. Oubliez ça. Oubliez ça. Ça, c'est une parole pour quelques-uns de vous aujourd'hui. Oubliez le passé. Est-ce que vous êtes là? Comment est-ce que je peux oublier le passé? Mais Dieu l'a oublié. En fait, il y a des gens ici que peut-être vous dites, mais moi, je ne peux pas faire grand-chose parce que j'ai péché contre Dieu. J'ai fait telle chose. J'ai fait telle gaffe. J'ai blessé telle personne. Oublions le passé. On ne peut pas courir comme ça. On va trébucher. On va s'égarer. On va se blesser et on va blesser les autres. Savez-vous, ce n'est pas juste vous qui allez souffrir. Et ça vient de l'esprit maintenant. Si vous continuez à courir en regardant en arrière, ce n'est pas juste vous qui allez souffrir. Mais vous allez faire souffrir les autres aussi. Pourquoi? Si on ne regarde pas, on va avoir des collisions, n'est-ce pas? En plus, si vous n'arrivez pas à votre destinée, il y a des gens qui vont souffrir. Il y a des personnes qui ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre ministère. Ils ont besoin de votre appel. Que ce soit une petite chose à vos yeux ou non, ils ont besoin de votre contribution au plan de Dieu. Amen. Regardez pas en arrière. L'arrière va vous empêcher. Alléluia. Et aujourd'hui, je crois vraiment que le Seigneur veut faire une œuvre. Il y a quelques-uns de vous, vous avez refusé d'accepter le pardon pour votre passé. Vous êtes prêts à pardonner les autres, mais il y a plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à vous pardonner vous-même. Regardons qu'est-ce que Paul a dit. Il a dit, oubliant ce qui est en arrière, penses-tu que c'était peut-être difficile pour lui d'oublier tous les chrétiens qui ont souffert, les personnes qui sont devenues orphelins grâce à lui? Penses-tu que c'était facile dans le naturel d'oublier cela? D'oublier le sang que lui, il a versé? Mais regarde bien qu'est-ce que Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 7. Et écoutez avec les oreilles de l'esprit. Donnez-nous une place. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Quelqu'un qui était présent la journée qu'ils ont lapidé Étienne aurait pu dire, « Menteur! J'étais là, je l'ai vu, je suis témoin. » C'est lui qui a organisé l'exécution d'Étienne. Tout le monde a mis leur vêtement à ses pieds. C'est lui qui a donné approbation. C'est peut-être même lui qui a lancé la première pierre. On ne sait pas, mais il est coupable. Mais Paul était capable de dire, « J'ai ruiné personne. » Nous avons fait tort à personne. Comment est-ce qu'un homme peut oser, un homme qui est meurtrier, comment est-ce qu'il peut oser dire « j'ai fait tort à personne » C'est parce que l'homme qui a fait tort à Étienne était enterré avec Jésus-Christ. Crucifié avec lui. Paul a dit « j'ai été crucifié avec Jésus, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi ». Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est la même chose pour vous aujourd'hui. Il faut que vous soyez capable de lâcher prise de votre passé. Amen. En sachant que Dieu a mis vos péchés dans la mer d'oubli. Donc, si vous avez fait des bêtises, vous avez fait tort aux autres, oubliez cela. Il faut que vous oubliez pour vous-même, mais aussi pour les autres que vous êtes destinés à toucher. À aider. Amen. Combien de fois on va gâcher aujourd'hui à cause de nos erreurs d'hier? Est-ce que vous êtes là ce matin? Oubliez ce qui est en arrière. Étendez toute votre énergie vers ce qui est devant vous. Tendez toute votre énergie vers ce qui est devant vous. Alléluia. Fixez vos yeux. Fixez vos yeux. Vous savez, moi, j'aime faire du kayak un peu. Et j'ai grandi dans un canot. Mon père était un maniaque de canotage. Il faisait des courses de marathon de canot. Vous savez, c'est quoi un marathon? C'est 26 000. 26 000 dans un canot, et quand tu fais ça en dedans de je ne sais pas même combien de temps, mais c'est incroyable qu'est-ce que mon père était capable de faire avec un canot. Mais il y a deux semaines, j'ai fait un peu de canot avec mon père. Et mon père est pas mal plus vieux que moi, mais je ne peux toujours pas l'attraper. Mais moi, j'étais juste dans un kayak, par exemple, et on montait une rivière. Et on faisait juste 2000, mais on montait contre le courant. Mais rendu à une place, le courant était pas mal fort. Mon père a dit, mais je veux voir si tu es capable. Laisse-moi vous dire, hein? Cette leçon-là, ça s'applique. Parce qu'une chose, moi, ça regardait pas trop mal. Hein? Il y avait un peu des petits rapides, et ça c'était facile. Mais il y avait une autre place où le courant était beaucoup plus fort, mais à la surface, ça avait l'air de rien. Mais là, je commençais à ramer et je montais. Et moi, je donnais pas mal d'énergie. J'ai dépensé toute mon énergie pour monter. Je regardais juste devant moi. Et puis, je regardais, il y avait une roche à peu près d'ici jusqu'à là où Stéphane est assis. Il y avait une roche. Là, j'ai dit, bon, j'y vais. Et le courant était fort. Hein? Et je regarde à peu près 30 secondes. Et après 30 secondes, quand tu rames vraiment, 30 secondes, c'est long. Je dis, la roche n'a pas bougé. Un autre 30 secondes, ça n'a pas bougé beaucoup, hein? Et je suis quand même assez en forme. Mais là, je dis, OK, j'ai un choix. Je n'ose pas regarder en arrière. Pour deux raisons. Papa est en arrière, on ne fait pas ça. Et deuxièmement, je sais... Je ne peux pas juste prendre une pause pour me... Oh ben, je vais juste prendre une pause parce que la moitié du chemin était déjà fait. Si je prends une pause, qu'est-ce qui arrive? Je regarde en arrière, je dois recommencer. Mais je dis, OK, oubliez ce qui est en arrière. Je me porte vers ce roche qui est devant moi. Et je donne toute mon énergie pour arriver à ce qui est devant moi. Amen? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je suis capable. Et on l'a fait. On l'a fait avec la grâce de Dieu, avec son aide. Parce que le courant était fort quand même, là. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que spirituellement, le même principe s'applique, n'est-ce pas? Spirituellement, vous savez, moi, mon pasteur, quand j'étais jeune à l'église, il disait toujours que n'importe quel poisson mort peut suivre le courant. C'est ça. Et j'ai jamais oublié cela. N'importe quel poisson mort peut suivre le courant. Et vous savez que dans ce monde, il y a un courant. N'est-ce pas? Le monde est en train de nous amener des fois à les places où on ne veut pas aller. Et tout le monde suit le courant de ce monde. Mais ça prend un poisson qui a de vie, qui a de guts, pour monter contre le courant. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur veut nous exhorter. On a un choix à faire. On peut faire croire qu'on est des poissons morts, ou on peut dire non, Seigneur, nous sommes les nouvelles créations. Nous sommes les nouvelles espèces de créatures qui n'ont jamais existé auparavant. Nous sommes les enfants de Dieu, les nouvelles créations. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ et on monte. J'oublie qu'est-ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant moi et je donne toute mon énergie pour arriver au prix. Amen. C'est pourquoi, prenez pas une vacance de Dieu. Moi, j'ai appris une chose, que si on n'avance pas dans le Seigneur, on recule. Je ne parle pas d'avancer dans votre propre force, je parle d'avancer avec son aide. Je parle d'avancer avec la puissance de l'Esprit et la parole de Dieu. Hein, et le vent de l'Esprit sous nos ailes, on peut dire. C'est ceux qui savent attendre dans la présence de Dieu même, qui sont capables de monter et prendre le vol comme les aigles. Et c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Oubliez ce qui est en arrière. Tendez toute votre énergie vers ce qui est devant vous, comme l'apôtre Paul a dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tout le monde dit incorruptible. Alléluia. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est une attitude intéressante, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur, même si j'ai fait beaucoup de route, même si j'ai fait beaucoup de progrès, j'arrête pas jusqu'au moment que j'arrive à ma destination. Et ça prend une certaine discipline, ça prend une certaine une résolution, mais ça prend la puissance de Dieu. Amen. On va continuer verset 13. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. Tout le monde dit ma course. Vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, fixez les yeux sur la rémunération. Oubliez ce qui est en arrière. Tendez toute votre énergie vers ce qui est devant vous et poursuivez la course que Dieu vous a confiée. C'est important parce qu'il a dit, il n'a pas dit, moi je poursuis la course que Dieu a confiée à Pierre. Je poursuis la course que Dieu a confiée à Jean. Pierre était appelé à être l'apôtre pour les Juifs, n'est-ce pas? Paul était appelé à être apôtre pour les païens, les non-Juifs. Et une chance qu'il a poursuivi le plan de Dieu pour sa vie, il n'a pas essayé de suivre le plan de Dieu pour l'apôtre Paul. Pierre, je veux dire. C'est ça le problème, c'est souvent on va se comparer les uns avec les autres. Vous vous rappelez de Jésus après la résurrection? Il est allé manger au bord de l'eau avec ses disciples. Vous vous rappelez de cela? Ils étaient à la pêche. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Jésus, ils ne savaient pas, au début c'était Jésus, a dit, « Bon, lancez votre filet à droite du bateau. » Et ils ont pris, je pense, 150 gros poissons. Mais le filet n'était pas brisé. Et quand ils sont arrivés, Jésus a commencé à parler. Et il parlait à Pierre. Et il vous rappelez de l'histoire. « Est-ce que tu m'aimes? »« Oui, je t'aime. »« Est-ce que tu m'aimes? »« Paye mon troupeau, etc., etc. » Mais quand Jésus commençait à parler de gens de mort que Pierre allait subir, Pierre a dit, « Mais Jésus, qu'est-ce que tu vas faire avec lui en parlant de Jean? » Jésus a dit, « Mais si je veux qu'il reste juste en vie jusqu'à ce que je reviens, ça n'a rien à voir avec toi. Occupe-toi de tes oignons. » En quelque part, on fait l'erreur parce qu'on se compare avec les autres. Et aujourd'hui, je sais que j'ai une destinée, j'ai quelque chose que j'ai besoin de faire ici sur la terre. Je suis appelé à être pasteur de cette église. On est appelé à faire un impact sur cette ville, cette province, la francophonie et au-delà. C'est ma destinée. Il y a un prix qui est attaché à mon appel. Vous ne pouvez pas être pasteur Ken. Moi, je ne peux pas être Claude. Belgique ne peut pas faire... Qu'est-ce qu'Annie est supposée de faire? Annie ne peut pas faire ce que Belgica est supposée de faire. Mais qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de saisir notre destinée et de poursuivre la course que Dieu nous a confiée, chacun de nous. Il y a quelques-uns de vous, vous savez, votre destinée, c'est vraiment axé dans l'évangélisation. Il y a d'autres personnes, c'est plutôt dans les soins pastoraux ou d'autres choses. Il y a certains-uns de vous, vous êtes doués manuellement. Vous êtes appelé à être une aide et un soutien aux autres. Vous n'êtes jamais appelé peut-être à prêcher ou d'enseigner ou de chanter, mais ce que vous faites est aussi important que ce que font les autres. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous exhorte. Je reviens bientôt. Il y a un prix attaché à votre appel. Il faut saisir votre appel. Comment? Fixez vos yeux sur la rémunération. Oubliez ce qui est en arrière. Mettez toute votre énergie pour poursuivre ce qui est devant vous, et poursuivez votre course. Mais je ne sais pas c'est quoi ma course. On va parler de ça dans les semaines à venir. Parce que la volonté du ciel doit s'accomplir ici sur la terre. Enfin, on va juste terminer ici. On a quelques minutes qui nous restent. Avec
Philippiens 3, verset 15. Paul, il continue son discours. C'est un peu différent ce matin, c'est plutôt une exhortation. Mais c'est ce que j'ai dans mon cœur, et je crois que c'est bon pour nous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis ce matin? Verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Quelle pensée? La pensée qu'on vient de lire. D'oublier qu'est-ce qui est en arrière. De tendre toute votre énergie vers ce qui est devant vous. Et de poursuivre la course que Dieu vous a confiée. Il faut que nous qui sommes spirituels, les adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Qu'est-ce que je vois ici? C'est qu'on a besoin, en tant qu'Église, en tant qu'individu, de développer cette façon de penser et d'adopter cette attitude d'un champion pour Jésus-Christ. Paul avait l'attitude d'un champion. Je vais courir vers le but et je n'arrête pas avant de le saisir. Amen. On a tous besoin d'adopter cette même mentalité. Seigneur, on y va, je vais jusqu'au bout. Je ne vais pas arrêter de ramer. Mon père est en arrière de moi. Et on veut être agréable à papa, n'est-ce pas? Verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Quelle exhortation pour nous aujourd'hui. 10 ans que je suis pasteur de la vie comblée. Aujourd'hui, je vois qu'on marche ensemble. On a un but. On a une vision. Continuons à marcher ensemble dans la même direction. Combien je suis content de voir les personnes qui ont suivi les cours dernièrement de bâtir sur leur corps, découvrir la vie comme son enfant, où on parle de la vision de l'Église, découvrir la vie comme son disciple, découvrir la vie comme son serviteur, etc. On voit qu'on a une équipe, pas juste l'équipe pastorale, mais toute l'Église. On est en train de devenir une équipe avec une vision et on court ensemble. Amen. On continue, verset 17. Suivez tous mon exemple, frère, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Je pense que c'est une bonne exhortation aussi pour nous, de trouver les modèles dans l'Église, des personnes qui sont déjà arrivées à une certaine maturité, et de développer les liens avec ces gens, et d'avoir les modèles, et de devenir les modèles pour les autres. Posez-vous la question, si quelqu'un me suit dans ma marche avec le Seigneur, où est-ce qu'ils vont arriver? Bonne question, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas sûr, ça fait du bien des fois de trouver des personnes qui sont mûres et matures et de suivre leur exemple aussi. Amen. On continue, verset 18. Car il y en a beaucoup qui vivent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Il y a des personnes qui marchent comme ennemis de Dieu. Et même les chrétiens, des fois, vous savez. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Il y a une version de cela qui dit, la limite de leur horizon, c'est ce monde terrestre. Et si nous allons saisir le prix et faire la volonté de Dieu, il faut qu'on voit plus loin que ce monde. Il faut qu'on sache que, oui, on est sur la terre pour une raison, et c'est bon d'être sur la terre. Paul a dit, il est plus fructueux pour vous que je reste. Ça serait beaucoup mieux pour moi d'aller au ciel tout de suite. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord que ça serait de fun d'aller au ciel tout de suite? Sauf qu'on sait qu'on n'a pas terminé notre œuvre ici sur la terre. Mais ici, on voit qu'on a besoin de lever les yeux, on a besoin d'élargir nos horizons et de voir plus loin que ce monde terrestre. On a nos deux pieds ici sur la terre. On fait des choses sur la terre. Dieu s'occupe de nous sur la terre. Mais notre cité à nous, on va voir, c'est dans le ciel. En fait, verset 20 dit, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Donc, Paul, il finit cette exhortation en disant, nous sommes les citoyens du ciel. Notre cité à nous, c'est dans les cieux. Et je crois que dans les semaines à venir, on va parler de cela. On va parler du fait que nous avons une véritable cité, que nous sommes les résidents permanents du ciel. Pas dans le futur, mais aujourd'hui même, je suis aujourd'hui un citoyen du ciel. Que vous êtes citoyen du ciel. Et que si on va saisir le prix et faire la volonté de Dieu pour nous sur la terre, il faut vivre dans la lumière de notre citoyenneté céleste. Comment? On va fixer nos yeux sur la rémunération. On va oublier ce qui est en arrière. On va se porter vers ce qui est devant nous. Et on va poursuivre avec persévérance la course, le chemin, le plan que Dieu nous a confié. En tant qu'individu et en tant qu'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire ce matin? Est-ce que vous êtes encouragés ce matin de savoir que Dieu a un plan pour votre vie? Et qu'il y a une destinée pour notre Église? Si on peut avoir les musiciens, on va prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Père Céleste. Je crois que c'est un bon temps pour nous maintenant, un bon moment, pour nous de sonder notre cœur, d'examiner nos pensées même. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes en train de vivre comme un champion qui court vers le but? Ou est-ce que vous êtes en train de suivre le courant de ce monde comme n'importe quel autre poisson mort? Alléluia. Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia. 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 Écoutez vraiment dans votre cœur. Wow. Aujourd'hui, je suis devant vous. Mon cœur est rempli de joie. J'ai un privilège incomparable d'être pasteur d'une bonne église. J'ai des relations avec vous, des relations pasteur, brebis, on pourrait dire, mais c'est plus que cela. Nous sommes des frères. Nous sommes dans la même famille spirituelle. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur Jésus a saisi ma vie. Et en quelque part, j'ai pris le temps de saisir ma destinée. Une chose aussi simple que de prier dans l'esprit, de chanter dans l'esprit pendant que je balayais le tapis en 1989. Je priais même en autre langue. Qu'est-ce que la Bible dit? Les mystères. Pour moi, c'était un mystère. L'idée d'être pasteur d'une église à Drummondville, au Québec, je ne savais même pas que ça existait. C'était un mystère total. L'idée de vous connaître, c'était un mystère. Mais parce que j'ai pris le temps de connaître Jésus dans la puissance de sa résurrection, de prier, de chanter en autre langue, de prier les mystères, le Seigneur était capable de me révéler une partie de ma destinée. Et ce qui était autrefois un mystère, aujourd'hui, c'est ma vie quotidienne. C'est ma vie quotidienne. Et des fois, on peut regarder ça et dire, bon, c'est juste normal, naturel. Non, c'est surnaturel que je sois ici. Chacun de vous, vous avez sûrement des témoignages semblables, ou vous devrez en avoir. Mais ce que j'ai dans mon esprit, c'est que, merci Seigneur, tu nous as amenés jusqu'à ici. Mais si on se contente du route qu'on a fait, on ne va jamais arriver à notre pleine destinée. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont un mystère pour nous en tant qu'Église. Il y a des nations que Dieu nous a destinées à toucher. Il y a des églises que nous sommes supposés à bâtir. Il y a des serviteurs de Dieu que nous sommes destinés à former. Il y a des œuvres que nous sommes supposés à faire, aider, soutenir. C'est un mystère, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et je sais que si on fait qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, si on est sensible à l'Esprit Saint, d'ici 10 ans, on va pouvoir regarder en arrière et dire, « Wow, Seigneur, ce qu'on prend pour acquis aujourd'hui, c'était un mystère en 2005. On ne savait même pas. On n'aurait jamais pu croire ou on n'aurait jamais pu imaginer toutes les belles choses que tu voulais faire à travers nous. Mais laisse-moi vous dire que ces choses ne vont pas arriver, ces choses ne vont pas s'accomplir par hasard. Il faut qu'on cherche sa face. Il faut qu'on connaisse le Seigneur Jésus, dans la puissance de ta résurrection et la communion de ses souffrances. Il faut qu'on oublie ce qui est en arrière. Il faut se porter vers ce qui est devant nous. Et il faut poursuivre la course que Dieu nous a confiée. Je vous invite ce matin à vous consacrer avec moi à ce plan merveilleux, à saisir le prix de notre vocation céleste. Alléluia, Père, au nom de Jésus, nous présentons devant toi, Seigneur, avec les cœurs bien disposés, réceptifs, prêts à recevoir et prêts à donner. Nous t'aimons de tout notre cœur. Avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste savoir si ce matin, peut-être il y a quelqu'un ici présent qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Si vous trouverez la mort aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir une place réservée pour vous au ciel. Vous n'avez pas la conviction ni l'assurance de posséder aujourd'hui même la vie éternelle. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que Jésus est venu, il est mort sur la croix, fut ressuscité le 3e jour, et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc, avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un, avant que toute l'Église prie ensemble, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. » Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main. Sinon, ça se peut bien que tout le monde ici est déjà entré dans le royaume de Dieu. Mais j'ai vraiment cœur qu'on doit prendre juste une minute ou deux. Sonder notre cœur et de nous présenter à lui comme des sacrifices vivants. Avec joie. Prie avec moi, Père Céleste. Je t'aime de tout mon cœur. Et je te remercie, Père, pour la vocation céleste que tu m'as adressée du ciel. Je prends une décision aujourd'hui de fixer mes yeux sur la rémunération, d'oublier ce qui est en arrière, de me porter vers ce qui est devant moi et de poursuivre la course que tu m'as confiée. Et je te remercie, Père, que je vais saisir le prix parce que tu m'as saisi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à courir vers le but ce matin? Alléluia!